Salut à tous, salut à tous, bienvenue dans le 12e numéro du Salon Tactique spécial Coupe du Monde de rugby. Bien sûr, vous en avez l'habitude, on va malheureusement pas parler de l'équipe de France, puisque vous le savez, les Bleus ont chuté la semaine dernière au Stade de France. On va pas se faire de mal plus que ça. On va revenir en longueur sur les deux rencontres de ce week-end. D'abord, cette demi-finale remportée largement par la Nouvelle-Zélande contre l'Argentine, 44 à 6. C'était vendredi soir à Saint-Denis, et hier, une rencontre un peu plus, même beaucoup plus disputée entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre, 16 à 15. Le casting, vous le connaissez, profitez-en puisque c'est la dernière fois que nous serons réunis tous les trois. On vous annoncera d'autres nouvelles plus tard. Alexandre Bardot nous fait le plaisir d'être là. Bonjour Alexandre, comment ça va?
Salut à tous, ça va, bien.
Bien?
Un peu dans une descente après l'élimination de l'équipe de France, mais je crois que c'est un peu le cas de tout le monde et on attend quand même la finale avec beaucoup, beaucoup d'impatience, plus que les demi-finales, on va dire.
Regarde, Yannick Brut est en train de se faire une Guinness discrètement pendant qu'on parle. Ça va, Yannick?
Ouais, là je bois mon café pour la dernière avec
Ah,
vous. Voilà, ça me fait
ça
plaisir.
va, tout va bien?
Non,
Bientôt
ça
la
va
reprise
bien.
du top 14, Yannick? La reprise du top
Ouais.
14 dans une semaine?
La reprise top 14 approche. Voilà, toujours cette période un peu étrange où on regarde la Coupe du Monde à la télé, les Bleus sont plus là et nous on prépare le retour. On a tous été pris de court d'ailleurs, puisqu'il faut gérer les vacances de nos internationaux. Donc c'est des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées parce que inconsciemment on pensait que voilà, on pensait comme tout le monde. Et puis voilà, bon ouais, un peu déçu, un peu déçu. Des demi-finales, l'une parce que un rapport de force un peu trop disproportionné. On en parlera après, mais on a vu très rapidement quel serait le vainqueur. Et puis l'autre, bon, une bataille tactique, des conditions météo vraiment difficiles et qui deuxième demi-finale qui nous a vraiment tenu en haleine les 10 dernières minutes quand on a pensé que c'était possible que les Anglais fassent face le coup du siècle. Donc voilà. Mais on est là pour en parler.
Ouais, ça c'est bien, parfait. Yannick, t'es rodé, c'est bon, on peut encore faire 12 semaines d'émission, ce serait parfait. Trois thèmes donc que vous avez choisi d'aborder, évidemment, c'est pas très compliqué, on va revenir sur la victoire des Box et comment les Sud-Africains ont fait pour s'imposer en fin de match, avec notamment un zoom sur cette dernière mêlée qui a encore fait parler, l'arbitrage de Ben O'Keeffe. Le deuxième point, ce sera la démonstration des All Blacks, qui était un peu plus attendu contre l'Argentine la veille en demi-finale. Et enfin, on va basculer sur cette finale entre deux équipes qui ont déjà gagné trois fois la compétition chacune, et on s'appuiera à un moment qu'ils allaient perdre ce match hier.
Écoute, bon, au début du match, ils ont quand même accumulé. Déjà, j'ai vu beaucoup d'émotions sur l'hymne anglais, ce qui n'est pas forcément habituel chez eux. Donc, j'ai dit, ah, les Anglais ont préparé une mission commando. Puis, j'ai commencé à voir ces pertes de balles inhabituelles chez les Springboks. Ils sont contrés sur plusieurs mauls, on y reviendra. Contrés sur certaines collisions. Et là, je me suis dit, c'est typiquement le match piège, mais tout va rentrer dans l'ordre rapidement. Puis quand j'ai vu qu'on rentrait dans les 15 dernières minutes et que les Anglais étaient toujours devant, et après le drop de Owen Farrell, j'ai dit, ils vont faire le casse du siècle. Je l'ai pensé, honnêtement, parce que vraiment, là, ça a tenu à un fil, et il fallait absolument marquer sur cette touche, parce que c'était la seule option. Et il fallait encore rentrer ce coup de pied de 50 mètres sous la pluie en fin de match. Voilà. Honnêtement, j'ai trouvé le coaching des Bocs un peu bizarroïde pendant 60 minutes. Sortie de l'Ibock prématurée, la rentrée de Willy Leroux à l'arrière, qui fait une très mauvaise rentrée. Il y a des choses que je n'ai pas comprises. Et je me suis dit, ils sont à côté de la plaque aujourd'hui. Voilà. Mais voilà, je vais pas dire que le destin fait bien les choses, mais je pense que si on avait eu Nouvelle-Zélande-Angleterre en finale, bon, là aussi on aurait eu une position de force un peu disproportionnée.
Et toi, Alex?
Moi, j'ai été surpris parce que on a beaucoup évoqué la semaine dernière et depuis plusieurs semaines maintenant le fait que les Box sont vraiment très méticuleux et qu'ils ont des plans toujours impeccables et qu'ils sont aussi très forts dans les efforts invisibles, on va dire. Et en fait, j'ai trouvé que sur ces domaines-là, ils avaient été battus par les Anglais, qui avait un plan plus précis, qui était mieux dans l'engagement physique, qui faisait des efforts mais considérables, même s'il n'y avait pas eu beaucoup de rythme dans ce match, pour pouvoir bien réceptionner les ballons hauts, pour pouvoir mettre cette pression-là comme ils l'ont mis sur les mauls et dans d'autres exercices, bah, il fallait vraiment une grosse débauche d'énergie. Et en préparant l'émission, Yannick tout à l'heure a dit que peut-être que les Box avaient laissé aussi beaucoup d'énergie mentale et physique dans le match contre la France. Et c'est vrai que c'était pas n'importe quel match. Le contenu déjà était important, enfin, était quand même costaud. Puis c'était le match face au pays hôte. Peut-être que les Box avaient mis beaucoup de gomme sur ce match-là et que c'était plus dur. En tout cas, ils n'avaient pas, eux, la même énergie, ni le même plan. Et effectivement, on les a sentis à un moment dans une forme de nervosité inhabituelle. Ils étaient bousculés, on voyait qu'ils râlaient, on voyait que le coaching était prématuré, que voilà, c'était assez étonnant. Mais comme dit Yannick, le destin fait bien les choses. Moi, je suis content qu'on ait cette finale-là. Parce que bon, pour une 10e Coupe du Monde, quitte à pas avoir les Bleus, autant que ce soit les deux pays phares du rugby mondial qui s'affrontent et voilà, qu'à la fin, on sache, après 10 Coupes du Monde, qui est le meilleur. Celui qui en aura quatre, quoi.
C'est qui le meilleur? Tu parlais de la nervosité, c'est vrai qu'il y a une scène qui est assez rigolote, c'est quand Rassie Erasmus et Nimabur se réunissent, bah, ils sont chacun à leur place, et il y a tout le staff qui monte pour voir les consignes, et on a l'impression qu'ils sont un peu perdus, ou alors ils font une réunion comme ils faisaient un salon tactique entre eux, en fait, quoi. Donc
Ouais,
c'est vrai, c'était bizarre.
on a senti, comme a dit Alex, on a senti la nervosité. La nervosité, elle vient souvent quand tu n'as peut-être pas préparé le match avec la même intensité. Et quelque part, c'est rassurant. Ça veut dire aussi que les Sud-Africains sont humains parce que ils ont disputé un paquet de combats de boxe quand même depuis le début de cette compétition. Et eux, quand on parle de combats de boxe, maintenant, on sait vraiment de quoi il s'agit dans ce salon tactique. Le Tonga, l'Irlande, l'Écosse, ils battent le pays hôte en quart de finale. Je pense qu'ils ont poussé très haut l'émotion la semaine dernière. Inconsciemment, quand tu vois que la Nouvelle-Zélande met 40 points en demi-finale, bon, et que tu les as déjà battus de 30 points il n'y a pas si longtemps, et que tu as éliminé le pays hôte, je pense que c'est humain et c'est rassurant de se dire qu'ils sont humains. Ils se disent, attends, il faut qu'on fasse le boulot contre l'Angleterre. Et on a un nouveau rendez-vous pour la finale de la Coupe du Monde. Et je pense que certains Springboks l'ont pensé, puisqu'on l'a tous pensé. Donc, je pense que tout ça explique aussi qu'il y a eu pas mal d'atermoiements pendant 60 minutes, hein, avec des lancers pas droits, un alignement pas performant, des Springboks chavirés sur la mise en place de leur maul, des Springboks remis en question sur la ligne d'avantage, battus dans les duels aériens, battus dans les rebonds aussi, puisque c'était rigolo de voir comment, et Dieu sait que la bataille des rebonds, c'est quelque chose de très très important chez eux dans leur évaluation. Ils ont perdu les rebonds, c'est souvent les Anglais qui les ont eus, et c'est toujours significatif. Ouais, donc moi, ils étaient vraiment à côté de la plaque, et je pense qu'ils avaient déjà la tête aux hommes en noir.
On l'a déjà en finale, en fait. Ouais.
Ouais, c'est possible. Puis, on va un peu le souligner. C'est vrai que les Anglais aussi sont rentrés dans ce match avec beaucoup d'énergie et aussi des idées très claires, un plan un peu basique, on va dire, parce que de toute façon, je pense qu'ils ne savent pas faire. Bon, c'est un peu méchant. Ils savent pas faire autre chose que ce qu'ils ont fait hier, et les conditions favorisaient ce qu'ils ont fait hier, parce qu'il pleuvait vraiment beaucoup. Enfin, c'était une bruine très anglaise d'ailleurs. Il n'empêche que ce qu'ils ont fait, ils l'ont bien fait. On va prendre juste deux petits exemples de leur plan, de ce qu'on a pu voir. C'est pas grand-chose. Après, on passera à ce que Yannick a préparé. Mais on a vu en cours de match souvent, alors sur le plan large à la télé, on ne le voyait pas, que Daly et Steward échangeaient leur place quand le coup de pied allait être donné. Alors, je l'ai remarqué avec Daly, ça peut-être arrivé avec l'autre ailier, avec Johnny May. Quand les Anglais sentaient qu'il allait y avoir un box kick qui allait partir, c'est-à-dire un coup de pied du numéro 9 dans le couloir, Steward et Daly échangeaient leur place en cours d'action. Et là, par exemple, Daly est en jaune, cercle jaune, et Steward est en rouge. On est en début de match. Et en cours d'action, ils ont changé de place. Pourquoi? Parce que Steward, avec son mètre 80, plus de 1,95, je crois, ben, il a été brillant dans les ballons hauts. Il est très bon dans cet exercice-là. Et du coup, c'est une petite adaptation tactique intéressante. Et l'autre aspect, là où je les ai trouvés très bons, et je parlais des efforts sans ballon, c'est de regarder la poche de protection qu'ils créent autour de Stewart pour empêcher les Sud-Africains de monter. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs, 7 joueurs, si on ajoute Cole, qui sont en train de se replacer à fond pour protéger Stewart. On va voir la même chose plus tard, à la 48e minute du match. À nouveau, Daly et Stewart ont échangé leur position. À nouveau, 1, 2, 3, 4 joueurs en protection ici. Voilà, ça fait partie des petites choses intéressantes qui montrent que les Anglais avaient vraiment beaucoup réfléchi à leur match, à la manière de gêner ces Sud-Africains. Un autre truc, là, on est à la 53e minute. Les Boks viennent d'avoir leur première occasion d'essai du match. Un coup de pied à suivre qui sort légèrement devant Colby, je crois. Et il y a un renvoi au 22. Et là, Farrell est donc dans le carré rouge. On voit RNC ici dans le rond jaune qui a quasiment au 22 mètres. Et ici, un bloc d'avant, un bloc de sauteur, je veux dire, avec Enche et Snyman. Et en fait, derrière Enche et Snyman, il y a une quinzaine de mètres. Là. Réussir à placer le ballon dans cette zone-là, ce couloir de 15 mètres, sur un coup de pied qui, du coup, va faire une quarantaine de mètres, en lobant Snyman sans qu'elle sorte en touche, c'est pas évident. Et c'est ce que va réussir à faire Farrell. Et on va voir la suite va être intéressante parce que vous voyez bien RNC qui est dans son rond jaune là. Ben, c'est lui qui va récupérer le ballon derrière le bloc Snyman Enche qui a été lobé. Il va le récupérer, mais du coup, il a reculé de 20 mètres. Au moment où il récupère le ballon, ben, il avance pas, il est sous pression. Il va se faire plaque-boulée. Culbuté, les Anglais vont récupérer le ballon et je crois que dans la foulée, c'est le drop de Farrell et le score passe à 15-6. Donc ça, c'est pareil, je pense que c'était totalement travaillé et ça fait partie des petites finesses, on va dire, du plan anglais. Pour la suite, je vais laisser la main à Yannick parce que là, on va parler d'un autre aspect qui a été capital, c'est la façon dont les Anglais ont contré les Sud-Africains, que ce soit en l'air, c'est arrivé quelques fois, il y a quand même eu 4 touches perdues par les Sud-Africains, et puis au sol, avec cette touche, ouais. Je laisse la main Yannick.
Ouais, non mais on a tous vu le même match, on a vu les Springboks perdre des ballons sur les molles, être obligé de confier le gain du match à une alternance aux molles, puisque, et en parlera peut-être Alex après, j'ai trouvé qu'ils étaient très organisés, je pense qu'ils se sont préparés, et ils ont de la matière devant, hein, ils sont costauds, en jouant avec Cornelos en troisième lignée, Ben Earl, Curry, il y a de la densité, Itoje Martin aussi, en seconde ligne, donc ils s'étaient mis dans la tête de défier les Springboks toutes ces petites batailles qui sont d'habitude gagnées par les Sud-Africains. Déjà, sur la défense de Moll, j'ai trouvé qu'ils ont, pas mal de touches cruciales, ils ont mis un très grand couloir. Parce que ce qui est très important de savoir, c'est que si on s'approche trop de l'adversaire, on ne peut pas avoir d'élan pour frapper la construction du Moll adverse. Donc déjà, sur la plupart des touches décisives, les Anglais n'ont pas sauté. Et moi, j'ai aimé la distance qu'ils ont mis dans le couloir et la férocité avec laquelle ils ont joué le premier impact. On va voir sur la capture d'écran après. Donc là, on voit bien qu'il y a un grand couloir, vraiment. Et ce n'est pas innocent, puisque voilà, sur la capture d'après, immédiatement, ils ont réussi à mettre un impact vraiment fort avec ce qui est souvent un levier pour déstabiliser les kilos sud-africains. Dan Cole, il a souvent soulevé un appui. En même temps qu'il frappait, en fait, il a fait un plaquage. Et il a fait un plaquage sur son lifter à chaque fois. Il y a décollé un appui. Et on a souvent dit dans ce salon qu'un maul, il se gagne dans les deux premières secondes. Et je pense que les Anglais ont souvent gagné ces deux premières secondes. On a une autre capture d'écran. Donc là, on voit ce que fait Dan Cole. Après, c'est d'autres touches, mais c'est les mêmes stratégies. Là, on regarde une touche où les Springboks décisifs à 10 mètres de la ligne anglaises sont venues avec les deux centres dans le mall. Mais en fait, on l'a souvent dit aussi dans ce salon, c'est le premier impact qui est important, les deux premières secondes. On voit que Dan Cole, à l'identique de ce qu'il avait fait sur la touche d'avant, a déjà saisi une cuisse du lifter avant des Bennett Sebe. Il va le soulever et il va traverser le mall sud-africain. On a une autre capture d'écran. On va voir ce qui se passe de l'autre côté maintenant. Voilà. Et là, on retrouve Dan Cole qui est en train de soulever l'appui du lifter avant. Dans le même temps, on voit qu'il y a trois joueurs anglais en bélier qui viennent frapper sur le lifter arrière. Vous savez, si vous êtes des assidus sur Twitch du salon tactique, qu'on a souvent parlé aussi du côté crucial du lifter arrière sud-africain qui doit se retrouver comme un pilier de mêlée face à l'adversaire et qui souvent s'engouffre dans le pack défenseur. Là, c'est Dwayne Vermeulen, on voit qu'il n'a pas eu le temps de se retourner, qu'il est déjà impacté et que les Anglais sont en train d'ouvrir une faille, une voie d'eau entre Eben et son lifter arrière. Sur la capture d'après, on voit le chaos qui a été semé dans le pack sud-africain. Dan Cole, qui est tout en haut,
Il est là.
non, non, là, c'est au-dessus, au-dessus, au-dessus.
Ah, c'est Marleur
Contact.
ici.
Ouais. Donc Dan Cole, de l'avant du maul, c'est-à-dire face à son numéro 9, avec la rotation, il est allé complètement de l'autre côté. On voit que Dwayne Vermeulen, ben on ne sait plus où il est. Le maul s'est disloqué et les Anglais ont provoqué le chaos. Le chaos, KO ou CHAOS, comme vous voulez. Mais les Sud-Africains ont été surpris par cette virulence. Et c'est peut-être aussi un début de solution pour les Néo-Zélandais qui auront travaillé ce match.
Je me suis permis d'ajouter une capture où on voit bien le travail des joueurs anglais pour enlever les appuis aux Sud-Africains. Là, c'est Itoje et je crois que c'est Lowe qui sont en train de soulever. Il y a deux jambes en l'air. Il y en a une qui est soulevée par Itoje, qui est celle de Mostert. C'est la celle avec la chaussure bleue. Et l'autre, c'est la jambe de Hetzebeth, qui est soulevée par Martin, je crois. Donc en fait, ces deux joueurs-là sont privés d'appui alors qu'ils sont une des bases du maul. Et ce maul-là va, comme les autres, être réduit à l'impuissance. Il y a eu tout ce travail-là. Est-ce que ce travail est légal d'ailleurs, Yannick? Je me suis posé la question.
Non,
Enlever un
non,
appui dans un maul? Ouais.
non, c'est, mais voilà, c'est ce qu'on a souvent dit aussi ici. Il faut amener l'arbitre dans des zones grises. Bien sûr que c'est illégal, mais par contre, si on lève trop la jambe, on est pénalisé. Si on fait que lever un appui, ben là, c'est très furtif. Et en même temps, c'est diablement efficace parce que essayer de pousser une voiture en panne sur une jambe, c'est compliqué, franchement. Je prends cette expression, mais cette image, mais c'est ça. En fait, arrêter un maul ou démarrer un maul, il faut faire démarrer la voiture en panne et après on la pousse avec deux doigts. Mais là, si on vous enlève un appui, c'est hyper compliqué, vous perdez toute l'efficacité à la poussée. Donc les Anglais, ils avaient une organisation vraiment. Ils ont très peu sauté sur les touches dangereuses et ils avaient aussi des comportements individuels féroce au service de cette organisation.
Ouais, mais après, ça s'est devenu plus difficile, ouais.
Bah alors, il y a un moment clé dans le match, c'est évidemment d'abord le moment de l'essai sud-africain. Et là, Yannick, tout à l'heure, on en a un peu parlé, les Anglais, en fait, défendent plutôt bien, mais il y a un joueur qui vient de rentrer et qui va se planter complètement. Vous voyez l'image là?
Ouais, c'est bon.
Ouais, c'est bon. Qui va se planter complètement et ça va coûter très cher au final. Donc là, c'est Snyman qui vient de capter le ballon ici. On voit que les Anglais, toujours, il y a cette histoire de distance là dont parlait Yannick, ils vont pouvoir arriver avec de la vitesse. Mais il y a
Ils vont
ce joueur.
sniper
Comment?
et on voit bien qu'ils vont sniper le 5, Monster, le lift arrière, parce que ce
Ouais.
mec-là est crucial. Et c'est d'ailleurs, c'est super bien joué aussi des Sud-Africains. Hein. Faut avoir des coronesses pour tenter cette animation sur la balle de match.
Oui, puisque là, c'est Foury qui doit être ici, je crois, qui va finalement partir ensuite. Ça va se transformer en maul furtif, en fait. Foury va faire le tour et partir. Et Vunipola, lui, il est en position de relayeur, si je ne me trompe pas. Il est en train de s'approcher du maul, mais il est un peu en retard, peut-être. Il n'est pas assez à hauteur du maul. Il est aussi trop dirigé vers le maul. Et on va voir que sur la sortie de balle, il est pris à contre-pied, en fait. Alors qu'il s'apprêtait sans doute à aller pousser, Foury, lui, au moment où Vunipola commence à s'approcher du maul, Foury sort en sort, il va contourner Vunipola, il va mourir à 1 mètre de la ligne, et puis ensuite il suffira d'une passe supplémentaire pour Snyman pour l'essai. Donc là, c'est un moment capital. Et l'autre moment capital, là, je laisse l'expert en mêlée en parler. Ça a fait beaucoup débattre aujourd'hui.
Ouais. On rappelle juste que on rappelle juste que Oxenche était rentré un peu avant et qu'il a fait une super rentrée aussi. Hein.
Ouais, non, mais Oxenche, il est aujourd'hui,
Il est incroyable.
franchement, il est incroyable. Je pense que Dan Cole n'a jamais fait, je pourrais dire, gâteau roulé, comme il l'a fait sur la première balle. Il a décollé du sol. Il a
Incroyable.
décollé du sol. Je pense que pour sa dernière sélection avec l'Angleterre, je l'ai jamais vu exploser comme ça sur une épreuve de force. Donc, Oxenche, il est décisif. Il a été décisif contre la France. Il a été décisif contre l'Angleterre, en mêlée, au plaquage aussi, parce qu'il a provoqué des en avant. Donc, franchement,
Je vous montre juste une petite photo, je l'ai mise de côté, parce que je voulais qu'on voit à quoi il ressemble. 1 m 76, 123 kilos. On peut imaginer ce que ça peut causer en mêlée, un joueur avec un gabarit comme ça, cette capacité peut-être à passer en dessous. Yannick, tu vois, tu peux voir.
Nick Mallet disait que c'était le pilier gauche le plus destructeur du monde. C'est un assassin silencieux, pour reprendre le terme de l'ancien entraîneur d'Afrique du Sud.
Pour moi, c'est un des tout meilleurs gauchers du monde, dans un autre style que Kitchoff, mais je le connais bien parce qu'il était aux Sharks l'année dernière. Il a la même gestuelle que Cyril Bailly. Pour moi, il est un peu sous-utilisé avec les Springboks. Je trouve que Steven Kitchoff bénéficie aussi d'une confiance et d'une immunité qui montre aussi le côté militaire des Springboks, mais Oxenche est toujours décisif quand il rentre. Donc bravo à lui déjà.
Et on
Et
revient
si,
à mes débuts.
si on revient sur la première mêlée, voilà. Moi, je vais prendre un peu à contre-pied la polémique et je pars d'une feuille blanche. Je n'ai pas en tête ce qui s'est passé contre les Bleus. Je regarde O'Keeffe. O'Keeffe, là, on a pris une image du côté qui n'était pas à la télé. Ça, c'est la vision de O'Keeffe. Juste au moment de l'impact, il voit Genge qui met un genou au sol, très clairement, et qui a le coude vers le bas. Voilà, ça, c'est les deux plus mauvais observables pour un arbitre au niveau international. Donc, la mêlée va se poursuivre, mais il faut que les gens qui nous écoutent sachent que O'Keeffe, il est humain et il va laisser la mêlée se dérouler avec cette image-là en tête. Ce qui se passe après. Après, donc, je reviens un petit peu avant pour expliquer à ceux qui sont novices à mêlée, mais qui sont sur Twitch. Regardez le carré rouge et vous allez comprendre la spécificité d'une mêlée. Le pilier gauche anglais, c'est-à-dire Genge, il a caché son épaule derrière le moignon de l'épaule du talonneur, Jamie George. Okay? Si vous regardez par exemple Enche avec Mbomambi, c'est pas pareil. On voit qu'Mbomambi, son épaule est un petit peu plus disponible. Ça a une énorme incidence. Ça veut dire que le pilier blond que vous voyez, Vincent Koch, comme il n'a pas l'épaule du gaucher pour prendre appui sur sa nuque, il n'a pas d'autre option que rentrer à l'intérieur de la mêlée. Donc, dans la biomécanique des forces sur la mêlée, la suite de ce positionnement-là, on l'a sur la capture d'après, c'est qu'au moment où l'arbitre dit bind, à ce moment-là, les joueurs ne sont pas rentrés. Donc, bind, ça veut dire lié en anglais. Donc, l'arbitre, il dit crouch, donc baissez-vous, flexion. Bind, liez-vous, et 7 pour entrer. Au moment du bind, regardez comment la physique impose à Koch d'être déjà en travers. Tout simplement parce qu'il n'a pas accès à l'épaule de Genge. Et donc, la photo que l'on a vue dans certains médias avec sa position complètement en travers, elle mérite qu'on explique une chronologie. Il n'avait pas d'autre option. Et c'est lié au comportement de Genge sur toutes les phases précédant la mêlée. Et bien sûr, ce qui va donner à 7 au moment de l'impact, bon, l'autre image, elle est terrible. Voilà. Donc là, il y a eu 7. Le ballon a été introduit dans l'instant. Ben, on voit que Vincent Koch, il a poursuivi sa course vers l'intérieur, c'est-à-dire en direction du tunnel des vestiaires, et pas vers la butte adverse. Genge était déjà caché derrière son talonneur. Il a continué à tourner autour de Coq et il le détruit. Mais j'ai envie de dire illégalement.
On voit qu'il a vraiment l'épaule droite en 13 en arrière. Là, on voit bien. Non, mais
c'est clair. Et c'est une stratégie. Et les piliers gauches sont sanctionnés pour ça. Et au milieu de ce gentil bazar, qui a une histoire, on a Ben O'Keefe qui, lui, il est sur son flash de la première image où il a le coude en bas et le genou au sol. Et il n'en faut pas plus. Là, à ce moment-là, Ben O'Keefe, je pense qu'il ne sait plus où il est. Il dit, mais c'est quoi cette mêlée? Qu'est-ce qui se passe là? C'est la 80e, l'équipe qui gagne une mêlée par en finale de Coupe du Monde. Et je pense que son cerveau lui rappelle justement les observables de départ qu'on a vus. Et il met la mêlée contre les Anglais. La pénalité contre les Anglais, ça provoque la fureur de Jamie George. Mais ça s'explique. Moi, je ne suis pas d'accord quand on montre que cette image et qu'on dit « Ben O'Keefe est un malhonnête ». Non, non. Il y a une chronologie, il y a une histoire sur cette mêlée et il s'en est tenu aux observables qu'il a eu depuis le début de la mêlée.
Juste pour rappel… Il faudrait qu'on voit les deux plans à la télé, en fait. Il faudrait qu'on voit une caméra de chaque côté, en fait, pour avoir la vraie vision. Voilà. En fait.
Voilà. Surtout, il faudrait qu'il y ait du bruit en consultant.
Voilà. Non, mais le truc, c'est la complexité de la mêlée. C'est que il y a l'arbitre central. Bon, il a le côté où il se place. De l'autre côté, il fait confiance à son assistant juge de touche. Et tout ce que moi je vois avec 6 ou 7 caméras tranquillement au débriefing dans le salon tactique, lui, il doit décider sur l'instant. C'est hyper complexe. C'est hyper complexe. Et imaginez l'émotion en plus quand on sait l'importance de la décision. Voilà. Donc,
deux détails intéressants. Que c'est...
Ouais. Non, je dis, quand s'agissant de mêlée, comme de rugby en général, c'est difficile de travailler qu'avec des captures d'écran. D'où le mérite qu'ont Alex et Jeff dans le salon tactique, parce que il y a un jeu de force qui fait que la position de l'un induit quelque chose une seconde après.
Juste deux détails intéressants. J'ai revu le tout à l'heure, juste avant le début de l'émission. Au début, cette mêlée est faite à refaire plusieurs fois. Au début, Ben O'Keefe est situé côté de Enche et Sinclair. Il change et ce qu'il dit quand il accorde la pénalité au Springboks, il dit à Genge, il lui dit genou au sol. Il dit le pilier gauche a le genou au sol, puis il pousse en travers. Donc il donne ces deux indications. Et Pollard a fait le reste.
Voilà. Et il faut aussi garder à l'esprit sur l'addition, c'est que même si chaque mêlée c'est un redémarrage à zéro, l'arbitre il est forcément marqué par l'explosion de la mêlée anglaise deux mêlées avant. Les deux mêlées avant, il y a pénalité pour les Springboks. Il y en a une qui est à refaire là et il se passe ça. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'arbitres français qui auraient pris la même décision que lui.
Oui, sauf que c'est Ben O'Keefe, on en fait des tonnes par rapport au match de la semaine dernière. Donc, tout le monde insiste là-dessus. Quoi.
Oui, mais nous, on est là aussi pour ce salon, pour travailler sur des faits, sur des observables, et pour amener aussi un peu de matière à ceux qui peuvent être trop dans l'émotion aussi.
Mais ce que tu dis, Yannick, est intéressant parce que juste ce qu'il dit est très intéressant, Yannick, sur le fait que lui, là, il a le temps, c'est-à-dire qu'il a pu revoir la mêlée plusieurs fois sous plusieurs angles, ce que ne peut pas faire Ben O'Keefe. Il n'a pas la pression, il n'a pas la fatigue de 78 minutes de course après le ballon, il n'a pas la pression de l'enjeu, du public, etc. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il pose les choses, Yannick. Et il faut pas oublier que quand on est on a vu beaucoup de clips, c'est là que je veux en venir, on a vu beaucoup de clips circuler ces derniers jours sur l'arbitrage de Ben O'Keefe lors de France-Afrique du Sud. Je passe sur les aspects parfois mensongers de certains clips sur des calculs qui auraient été faits par rapport à la trajectoire du ballon, etc. Il y a un moment aussi, il faut prendre en compte le fait que ça va très vite, que la vision de l'arbitre, elle est partielle, y compris sur une zone de ruck, par exemple, Quagga Smith qui met la main au sol sur le ruck de la pénalité de Pollard. C'est une erreur d'arbitrage, effectivement. Mais est-ce que l'arbitre voit ça? Est-ce qu'il a pas un joueur français, deux joueurs français qui bouchent la vue? Donc il faut faire attention à pas trop rationaliser à l'extrême les choses. Je dis ça en étant conscient que nous-mêmes, on essaye de le faire. Mais sur l'arbitrage, je pense qu'il faut être un peu humble en quelque sorte et admettre que Ben O'Keefe, s'il avait voulu se faire les Français, par exemple, la semaine dernière, il aurait pu siffler pénalité sur la passe de Clerc pour Pollard, la passe qui était une passe pour un drop. Pollard l'a fait, la balle touche Walkie, et Ben O'Keefe, avec de la nuance, de l'intelligence, dit « Attendez, vous avez fait exprès d'envoyer ce ballon sur Cameron Walkie, donc je ne peux pas vous accorder un hors-jeu. » Ce qu'il aurait dû faire, en réalité, apparemment, le règlement dit plutôt qu'il aurait dû accorder pénalité pour les box. Il ne le fait pas, il donne mêlée au bleu. S'il avait voulu se faire les Français, les choses auraient été simples pour lui. À ce moment-là, on est à la dernière minute du match, ou quasiment. Donc, attention aux conclusions rapides, aux analyses à partir effectivement d'une seule capture pour dire, regardez, ça va vite, très vite. Il y a 1000 fautes par match et il faut trier. Et voilà. Bref.
Je pense que Jeff, tu vas nous dire qu'il faut clore le chapitre.
Exactement, Yannick.
Je pense que s'il avait voulu rendre service à sa patrie, et je sais combien Ben O'Keefe, néo-zélandais, il supporte les All Blacks, s'il avait voulu vraiment leur rendre service, il aurait envoyé les Anglais en finale.
Mmh. Oui, parce que tout.
Et les Français, peut-être même.
On a même entendu du complotisme. Tout était calculé cette semaine pour Ben O'Keefe qui allait choisir l'adversaire de la Nouvelle-Zélande. Bon, transition toute facile. La Nouvelle-Zélande n'a pas eu besoin de décisions litigieuses
Quel génie.
Largement contre l'Argentine. Messieurs, il n'y a pas eu match et la Nouvelle-Zélande, est, offensivement, c'est toujours aussi impressionnant sur la lignée des dernières semaines. Non
On va avancer. Je vais prendre la main. Parce que quand on a fait un peu long sur le premier match, et c'était le plus intéressant, juste pour dire que l'énorme différence entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande samedi soir, c'est une différence d'efficacité offensive. Juste ce petit graphique, vous l'avez ou pas? J'ai fait toutes les
données. Tout à fait, Alexandre.
Voilà. Donc l'Argentine, 0,67 points par entrée dans les 22 mètres adverses. Nouvelle-Zélande, 3,67 points. La semaine dernière, Yannick disait qu'à 2,5, c'était du haut niveau. Là, on est à 3,67. Donc, ça veut dire que, pour reprendre les chiffres clairement, pour détailler, l'Argentine, c'est 9 entrées dans les 22 mètres. Néo-Zélandais, 0 essai. La Nouvelle-Zélande, ce n'est pas beaucoup plus d'entrées dans les 22 mètres adverses, c'est 12. Par contre, c'est 7 essais. Ce qui est assez énorme et ce qui est intéressant dans la façon dont les Néo-Zélandais ont joué, c'est qu'ils se sont beaucoup appuyés sur leur propre possession, enfin sur leur propre conquête, puisque sur les 7 essais inscrits, il y en a 6 qui partent de ballons, un sur mêlée et 5 de touche, donc de ballons de conquête néo-zélandaise. Et c'est aussi le fait qu'ils ont, et là on va le voir, le nombre de phases de jeu sur les essais néo-zélandais. Il y en a 4 au-dessus de 10 phases de jeu. Je suis allé regarder tout à l'heure, depuis le début de la Coupe du Monde, il y a 28 essais qui ont été inscrits après plus de 10 phases de jeu. Et au total, il y en a 8 qui ont été inscrits sur ces 28, il y en a 8 qui ont été inscrits par les Néo-Zélandais. Donc ça raconte quelque chose, parce que tenir le ballon comme ça, c'est pas simple. Et les Néo-Zélandais ont cette maîtrise-là technique, collective, individuelle, pour pouvoir enchaîner les temps de jeu. Il y a eu un côté, je trouve, un peu Barça ou City de Guardiola dans la manière dont ils ont joué vendredi plutôt, où ils ont eu des possessions parfois longues, sans prise de risque, à attendre la faute de l'adversaire ou à essayer d'obtenir un avantage de l'arbitre et ensuite ils lâchaient les chevaux en fait. Une fois qu'ils sentaient qu'ils avaient concentré la défense dans une zone, qu'ils avaient obtenu de l'arbitre un avantage, ils lâchaient les chevaux, ils osaient prendre un tiré supplémentaire, aller chercher une passe en plus. On va le voir, je crois, sur la capture suivante. Là, ce qui est intéressant, c'est que on en a beaucoup parlé ici dans le salon du jeu en black que faisaient les Français. Donc, ce jeu en black, c'est une dizaine de joueurs, on va dire, regroupés au centre du terrain, les 8 avant, le 9, un centre, un ailier. et on essaie d'enclencher un bras de fer collectif pour franchir la ligne d'avantage et créer un déséquilibre, ensuite aller jouer dans les couloirs. Là, c'est ce qui se passe. On est sur le deuxième essai. Deuxième essai où il y a eu 10 phases de jeu. Je ne sais plus à quelle phase on est précisément là, mais le ballon est dans le carré rouge. Et ce qui est intéressant, donc on voit que quasiment tous les Néo-Zélandais, sauf ici Téléa, sur lequel on reviendra, et Jordi Barrett à l'opposé, ils sont tous concentrés sur une quinzaine de mètres de largeur. Et là, le rôle des joueurs en rose, c'est Sam Kane, en bleu, c'est Bounga, en jaune, c'est Barrett, et en violet, c'est Jordan.
Jordan.
Ça va être d'aller jouer dans la largeur ensuite. Et on va bien le voir sur la capture suivante. On voit qu'il commence à se mettre en situation, là, à suivre le ballon. Le ballon va sortir rapidement. Sam Kane sur le ruck suivant, après le ruck suivant, il vient faire le troisième joueur dans la cellule offensive. Bounga vient faire le joueur relais, le manager, comme on dit, derrière White Lock. Boden Barrett fait le tour aussi. Will Jordan va prendre la largeur et ça va faire essai en bout de ligne du frère Barrett. Donc en fait, il passe d'une situation concentrée, on va dire, tous ces joueurs-là, à une situation où il s'étire, un peu comme un accordéon. On se concentre, enfin, le joueur concentré dans une zone, puis qui reprennent la largeur. On va trouver un peu la même situation là. On est sur le troisième essai. On est après 10 phases de jeu. Et là, c'est le rôle d'un joueur qui est vraiment très particulier. C'est Téléa. Il est dans le carré rouge. Téléa, c'est l'ailier gauche néo-zélandais. Il va souvent dézoner cet ailier, venir jouer au milieu des avants, notamment sur ses phases de bras de fer. Sur le match de vendredi, il a gagné 14 duels. Il a battu 14 défenseurs. Là, on le voit toujours la même chose. On a quasiment toute l'équipe néo-zélandaise qui est concentrée sur 10 mètres de largeur. Téléa vient prendre le ballon derrière un ruck, en premier attaquant. Il va battre un premier défenseur sur un appui. Il va se retrouver au contact de deux avants qui vont venir le plaquer. Là, on se dit, il est foutu. Il va tomber. D'ailleurs, on comprend même pas à posteriori comment il a pu se défaire de ce double plaquage. Il va en fait mettre un petit coup de bassin vers la droite pour échapper au défenseur face à lui. Il va reprendre son appui pied droit. Il va battre ce défenseur. Ça, c'est une photo donc d'un des photographes de l'équipe, Alain Monique, je crois. Et dans la continuité, il va avoir Issa qui va venir sur lui. Il va lui mettre un. On va voir avec le bras opposé, poser un raffut. Quitte même à se retourner en plein raffut et va repousser Issa. Il va avancer quasiment jusqu'à la ligne d'en but argentine et il suffira d'une passe ensuite dans le fermé d'Aaron Smith pour Mounga pour que ça fasse essai. On va retrouver Téléa, là, on est sur le cinquième essai, premier temps de jeu. Il vient à l'intérieur de Jordi Barrett. Il s'arrête quasiment, en fait, au lieu de venir avec deux en pleine vitesse. Il s'arrête, il va échapper à un plaquage, deux plaquages. Il va faire avancer son équipe et ça va faire. Ça va permettre à l'équipe de continuer à avancer. Là, on est sur la même action. On est à la 13e phase de jeu. Il vient à nouveau se mêler aux avants. Et à cet instant-là, il n'y a toujours pas d'avantage pour les Néo-Zélandais. Ils sont dans un bras de fer. Et puis, en fait, lui, il vient ramasser le ballon derrière le ruck. Et comme il le fait avec beaucoup de vitesse, en fait, le joueur qui est en train de le plaquer, c'est un joueur qui était au sol et qui était hors jeu. Et ce joueur, pris par la vitesse, en fait, en quelque sorte, de Téléa, il va se relever. Et là, l'arbitre va donner avantage aux Néo-Zélandais. Et via cet avantage-là, les Néo-Zélandais vont oser prendre un risque supplémentaire écarter un peu le ballon sur les côtés. Et enfin, dernière situation, là, on est sur le sixième essai. Toujours pareil. Là, on est sur le deuxième temps de jeu. Le premier temps de jeu, les Néo-Zélandais ont pris le centre du terrain. Téléa est venu ramasser le ballon derrière le ruck. Il va faire avancer son équipe sur quelques mètres, à nouveau en se faufilant comme une truite, comme dirait Guillaume Dufy. Et ça, les All Blacks vont continuer, l'action va se poursuivre. Et là, on est sur, je crois, l'avant-dernier temps de jeu. Et on retrouve toujours cette même situation, cette même idée. Les 15 Néo-Zélandais, là, ils sont tous dans ce carré rouge, donc dans 20 mètres de large. Et les joueurs que j'ai entourés, ce sont les joueurs qui vont assurer la prise de la largeur ensuite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce petit bonhomme en jaune qui est dans le ruck. C'est Mackenzie, il est dans le ruck. Et un temps de jeu plus tard, il se retrouve en premier attaquant. Il s'est très, très vite replacé. Et avec Kane, Jordan et Téléa, ils vont assurer la phase de jeu supplémentaire. Et il y aura essai sur. Donc on est à la 10e phase là. Je crois que l'essai sur celui-là viendra après 12 phases. Donc voilà, c'est l'efficacité des Néo-Zélandais samedi a été remarquable. Ils ont très peu utilisé, contrairement aux fois d'avant, le jeu au pied offensif. Ils n'ont pas choisi d'aller taper dans les couloirs, dans les diagonales, un tout petit peu dans le dos, mais ils n'ont pas visé les diagonales. Ils étaient une espèce de confiance dans la capacité de leurs avants à gagner le bras de fer, à trouver des espaces, capacité de leurs avants, mais pas que, hein, on voit avec Téléa. Je ne sais pas s'ils auront autant de latitude dans le combat, enfin dans l'avancée, on va dire, de la semaine prochaine contre les Bucks. Je ne sais pas s'ils arriveront, ils n'auront peut-être pas la même stratégie du coup.
Avant de passer la parole à Yannick, on rappelle juste que Téléa ne jouait pas le quart de finale parce qu'il était suspendu par le staff, parce qu'il n'avait pas respecté le couvre-feu. Quand vous ne respectez pas le couvre-feu, chez eux, ça rigole pas. Ils sont capables de prendre des décisions assez fortes et on voit que c'est un joueur indispensable. Je crois qu'il en a 6 et 108 sélections. Ce n'est pas un joueur qui a beaucoup de sélections. Mais Yannick, cette équipe néo-zélandaise, on la sent sûre de ses forces, hyper sereine, non?
Ouais. Ouais, Marc Téléa, c'est un profil atypique. Quelqu'un qui a flirté avec les frontières du légal, qui aurait pu avoir un destin compliqué, qui est arrivé tard sur le haut niveau. Voilà, c'est vraiment un mec qui a faim et qui a un passé chargé. Peut-être aussi pour ça que le staff néo-zélandais l'avait prévenu. J'ai une relation privilégiée avec certains joueurs de l'Afrique du Sud. Donc, je pourrais ne pas être objectif, mais je pense que les Sud-Africains sont vraiment en danger sur cette finale. Les Néo-Zélandais, ça fait un moment qu'ils avalent leur statut d'outsider. Ils ont été critiqués. Ian Foster, il a failli être démis de ses fonctions. Schmidt est arrivé, avec Joe Schmidt est arrivé pour l'épauler. Sam Kane a été décrié. Les joueurs ont fait bloc autour du management. Donc il y a une histoire qui me fait penser que le ciment il est solide là-bas. Et en plus, ils ont pris une fessée comme rarement face à ces mêmes Springboks à Twickenham. Donc je dis attention, je pense que il y a gros danger pour les Springboks parce que on voit que les Néo-Zélandais sont quand même dans une pente ascendante plusieurs matchs. A contrario, on a quand même été déçus du match des Springboks face à l'Angleterre. Je pense qu'on va aussi se poser un problème d'énergie. Je pense que les Springboks ont une équipe moyenne d'âge assez âgée, compétiteurs redoutables. Et Dieu sait qu'ils ont un appétit pour le combat et les efforts. Mais voilà, je pense que les niveaux de fatigue ne sont pas les mêmes. Je pense que les Néo-Zélandais sont vraiment dans une courbe ascendante. On a dit plusieurs fois aussi dans ce salon que c'est l'équipe avec l'Irlande, moins monocorde que l'Irlande, mais qui a dans l'architecture des mouvements offensifs les meilleures complicités avant trois quarts. Je pense que c'est l'équipe qui joue le mieux au rugby quand elle avance et qu'elle a des ballons positifs. Alex l'a montré dans les infographies. Donc je dis attention, il y a vraiment une grosse incertitude sur la finale et je pense que les Springboks sont en danger.
Ouais, il faudra suivre aussi extra-sportivement Mbodambique et Curry, savoir s'il y a vraiment eu des insultes racistes, parce que si Mbodambi est suspendu pour la finale, c'est pas la même mayonnaise. Ouais.
Ouais, non, si Bongi est suspendu, voilà, il y a plus de match. C'est leur vice-capitaine, c'est lui qui garantit la force de l'édifice à mêlée fermée. C'est un joueur redoutable de phase statique et c'est un leader de combat. Sans Bongi et Mbomambi et en ayant perdu Malcolm Marx en pré-saison, on voit bien que sur les fins de match, ça bricole un peu. Et d'ailleurs, Bongi, il a fini le match avec un strap à la cuisse. Ils l'ont poussé jusqu'à la 80e. Ils savaient très bien que ça allait se jouer sur une épreuve de force. Donc, ils n'ont pas voulu mettre Deon Fury talonneur. Bon, ils sont un peu esclaves du leadership de Bongi et Mbomambi. Aujourd'hui, les Springboks. Et s'il n'était pas là, ça serait, je pense, un obstacle insurmontable pour moi.
Alex, pour ne pas basculer sur la finale, l'avantage, c'est que tu as plein de clips, plein de vidéos à nous montrer parce que c'était diffusé sur la chaîne L'Équipe. En revanche, ton micro, Alexandre, il va falloir que... Alex,
il est nouveau dans l'émission. Comme je tousse, ce soir, j'ai coupé mon micro pour ne pas bouger.
Bravo, professionnel.
On a diffusé le match, donc le dernier français... c'était en août, ça a fini
35-7.
Par une grosse fessée, 35-7. Il y a des aspects intéressants, évidemment, il y a beaucoup plus de choses en faveur des box sur ce match-là qu'en faveur des Blacks, mais c'est pour ça que c'est intéressant de rappeler que un mois auparavant, donc au mois de juillet, les Blacks avaient largement dominé les Sud-Africains sur une marge, sur le même nombre de points. La marge était un peu inférieure, mais le même nombre de points. Je vais montrer un peu les quelques clips qu'on a préparés. Donc, il y en a un premier. Yannick, n'hésite pas à m'interrompre. Parce qu'en plus, là, on va parler de quelque chose que je crois que tu connais pas mal. Et c'est donc comment les Néo-Zélandais, les Sud-Africains ont fait très mal aux All Blacks sur les phases, sur les touches et sur les mauls, notamment. Là, on est en début de match et on va voir les Blacks qui se mettent à la faute. On en avait beaucoup parlé avant le match d'ouverture face aux Bleus, avec des Blacks qui avaient anticipé les entrées, les poussées dans les mauls parce qu'ils craignaient beaucoup la puissance sud-africaine. Ça arrivait plusieurs fois en début de match et ça a fini à un moment en carton. On va le revoir au ralenti sous un autre angle. Non, j'ai enlevé le ralenti finalement. Si, il est ici. On voit qu'ils anticipent beaucoup l'entrée et c'est ce qui est interdit. Et du coup, vous voyez que Mostert a les deux jambes au sol, décollées du sol pour le coup, pas une seule. Ce que les box ont bien fait, c'est qu'ils ont su s'adapter aussi, voyant que les Blacks allaient mettre la pression en bas. Ben, ils ont fait des combinaisons, un peu comme on l'a vu face aux Anglais samedi soir. Là, ça va partir dans le fermé où Smith est présent. Et du coup, Colissi va jouer un 2 contre 1. On va voir sous un autre angle. 2 contre 1 avec Marc, ça fait essai. Je pense qu'on va avoir un autre angle. Voilà, on voit que Savea qui est ici, il va venir se joindre à la poussée. Et du coup, il n'y a plus que le petit Aaron Smith tout seul dans le fermé. Et c'est coup gagnant. Là, toujours la même chose. Là, tout ça, c'est au cours du même match. Hein. Donc là, on est sur une autre touche. On va voir que les Sud-Africains vont... Là, ils sont pris à l'impact, mais ils vont réussir à décaler l'angle de poussée, à stabiliser, puis à décaler l'angle de poussée donc vers la gauche, là, en regardant l'écran. On voit que Snyman conduit quasiment. On voit qu'il tourne ses épaules vers ce côté-là. Et le môle sud-africain va dérouler et aller se conclure dans l'embut. Et la dernière action, c'est une autre combinaison. Cette fois-ci, au lieu d'aller dans le fermé, ils vont aller sur le grand côté. Et Foury va aller marquer. Quagga Smith va aller marquer. Donc, en voyant ce clip, on comprend bien une chose, c'est que... Les box ont un coup à jouer sur les touches et les ballons portés. Ils savent qu'ils ont un ascendant et qu'ils vont sans doute chercher à l'utiliser, Yannick.
Oui. Je pense que les Sudaf, ils ont une problématique de récupération. Je pense qu'ils auront diagnostiqué qu'ils ont manqué de fraîcheur et qu'il y a eu beaucoup d'énervement sur ce match. Donc, ils vont pas modifier le plan cette semaine. Je pense qu'ils vont... s'entraîner comme souvent avant une finale. Ils vont revenir à leur ADN et ce match va trotter dans les esprits de tout le monde. Et ils vont se dire que les mêmes options de jeu peuvent provoquer les mêmes effets. Donc je pense qu'ils vont chercher à rendre le match très très physique. Et je pense qu'ils ont raison parce que les Néo-Zélandais, lorsqu'ils avancent pas, ce lien avant 3-4 est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'ils vont chercher à ralentir les ballons d'Aaron Smith, ils vont chercher à dominer la ligne d'avantage sur les collisions, ils vont chercher à imposer une énorme épreuve de force à mêlée fermée aux Néo-Zélandais. Bon, mais là où toutes les équipes qui battent la Nouvelle-Zélande appuient, donc ça va être intéressant parce qu'il m'a semblé les Néo-Zélandais ont quand même aussi progressé sur la mêlée fermée. Ils ont vraiment secoué les Argentins, ils les ont secoués aussi sur les molles. Voilà, ils ont musclé leur jeu, les Néo-Zélandais.
On va voir sur la mêlée que ça avait été difficile, puisque j'en parle, ça avait été difficile pour les Sud-Africains, pour les Néo-Zélandais en août. Pas toutes les mêlées, ils avaient réussi à obtenir quelques mêlées, mais pas forcément grâce à leur domination, plutôt via des fautes sud-africaines. Là, c'est quasiment la première mêlée du match. On voit que De Groot met le coude au sol très vite. Il est pénalisé. Là, on va avoir une forte domination. Regardez quand même l'ampleur de la domination, quand même, c'est assez colossal. Là, c'est la même chose sud-africain. Introduction néo-zélandaise. Et on va voir Enche qui va faire un énorme effort des deux côtés d'ailleurs. Enfin, c'est assez, Le ballon va rester côté néo-zélandais, mais miraculeusement. Il faut souligner quand même que là, sur toutes ces mêlées, ou quasiment toutes, c'est Jordi Barrett qui pousse en troisième ligne parce que Scott Barrett avait été
Un
expulsé.
rouge.
Mais c'est quand même du 8 contre 8. On va voir la même chose, on va voir comment elle va prendre l'avantage, ce qui va compliquer la sortie de balle. Ici, c'est plutôt un début de match, une mêlée où les Sud-Africains gardent le ballon. On voit Malher face à De Groot et De Groot qui est en difficulté. Celle-là aussi est spectaculaire, introduction sud-africaine. Avec Enché, on est en fin de match. On voit que ça tourne encore et que c'est un des aspects. Je crois que c'est celle-là qui est encore plus, c'est celle-là la plus impressionnante. C'est clairement un des aspects, notamment sur la fin de match, quand Enché va rentrer, on voit que là, le pilier droit est décollé. Elle est vraiment impressionnante celle-ci. Et c'est pas fini. Il y a eu une ribambelle. Alors sur ce match-là, il y a Lomax qui était vite sorti. Aussi, le pilier droit néo-zélandais, puisqu'il avait été blessé. La cuisse, il sera là. Effectivement, il y a aussi le fait que les Blacks étaient à. Ils
À
avaient
14.
un pousseur à 14, on va dire. Ils avaient un pousseur qui n'était pas un pousseur idéal en troisième ligne, puisque
Ouais.
c'était Jordi Barrett qui joue centre
Et
d'habitude.
Alex, on
Mais
rappelle qu'ils
voilà.
avaient fait un bond à 7-1 juste avant le match aussi, quelques minutes avant le match, qu'ils étaient passés à 7-1 sur le banc, qui n'avaient pas foncièrement arrangé les Blacks en fin de match aussi.
C'est
Ouais,
sûr.
mais de toute façon, là je pense qu'il y aura du 6-2. Je pense que Ethan De Groot va être ciblé parce que c'est vrai qu'ils ont rentré Lomax et densifié le pack, mais De Groot me semble vraiment un petit peu en dessous, en tout cas dans l'exercice de la mêlée. On l'avait vu contre nous. Et puis voilà, ils ont cette force. On a revu Oxenche. On aurait pu montrer aussi contre l'Irlande comment il a traversé la mêlée irlandaise en fin de match, un match de poule. Ouais. Donc ça va être. Je pense que devant, les Sud-Africains ont vraiment les armes pour battre et secouer la Nouvelle-Zélande. En termes de fraîcheur, je pense que le staff sud-africain va devoir faire une semaine parfaite. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il semblait qu'il manquait un peu d'énergie côté Springbok.
Alors que les Blacks ont fait tourner assez vite contre l'Argentine. Il y a plusieurs cadres qui sont sortis aussi, logiquement. Oui.
Puis on y revient. Honnêtement, je n'ai pas compris le coaching d'Eben ultra rapidement. Donc, ça voulait dire qu'ils ont senti que plusieurs cadres étaient fatigués et manquaient de jus.
Un autre aspect qui avait été en faveur des. Enfin, qui avait été intéressant dans le match des Box face aux Blacks en août. Et on en avait parlé aussi lors du salon tactique qui avait précédé le match contre les Bleus, entre la Nouvelle-Zélande et la France. C'est la défense des Sud-Africains autour des joueurs adverses ayant franchi. On va voir deux exemples. Yannick, c'est toi qui avais souligné ça et tu avais expliqué un système de bulles. Là, on va le voir. C'est pas l'action d'Arense, mais on va le voir avec leur jeune centre dont le nom m'échappe. On va le revoir au ralenti. C'était Moody.
Canon Moody,
Cannon
Moody.
Moody, voilà, c'est ça. On va le revoir au ralenti. Moody qui est battu, on va dire, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il est ici, Cannon Moody, là, au milieu de ma souris. Donc, l'action se déroule au-delà de lui. Il est même battu, il est même franchement battu, puisqu'il est pris sur son extérieur. Et dans son replacement, il ne va pas s'arrêter et il va aller couper la ligne de passe entre, je pense, Savea et Scott Barrett. Et puis en plus, derrière, il va avoir cette action de génie où tout de suite, il va la remettre d'une seule main vers Willemse. Et là, c'est une action encore plus flagrante avec Arense qui va venir couper la passe de Jordi Barrett. On va le revoir à nouveau au ralenti, mieux comprendre. Au moment où Barrett franchit, là, Arense, il est quand même ici. Et en fait, au lieu de chercher juste à contrôler, il va venir créer cette idée de cette bulle en quelque sorte autour de Jordi Barrett pour que Jordi Barrett ne puisse pas faire de passe au contact, ce qui est une des armes principales des All Blacks. Et on voit qu'il vient couper la trajectoire entre Barrett et le troisième ligne. Néo-Zélandais qui était en train d'arriver à hauteur. Donc, Et c'est peut-être une autre possibilité de. Enfin, c'est quelque chose qu'on reverra peut-être samedi soir, sachant que là, en plus, maintenant, les Blacks sont prévenus. Donc, peut-être que aussi on ajustera le tir et chercheront moins à jouer au contact ou joueront. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Yannick? Est-ce que ça peut trotter dans la tête des All Blacks, ça?
Ouais, il y avait eu, je me souviens une fois, qu'à Smith avait aussi intercepté des ballons pareils, des Allende également. Ouais, bon, maintenant on sait que l'échafaud de plan militaire à chaque main. Jeff,
Ça
tu
roule
peux
vers
me
chez toi,
permettre?
je crois.
Non, je vous expliquerai ça. J'ai du bruit là. Je sais pas ce qu'ils
Ok.
ont.
Ouais, donc on sait que maintenant que les Springboks, on en a parlé, ils échafaudent à chaque fois un plan militaire pour abrocher un match. Et je pense que dans ce plan contre la Nouvelle-Zélande, il y a la volonté de créer une bulle autour du porteur de balle néo-zélandais, de couper les passes. Ils ont vu que la Nouvelle-Zélande offload beaucoup, recherche les passes après contact. Et donc, ils ont pour consigne d'envoyer un espion dans les lignes ennemies pour essayer d'intercepter le ballon. Je pense que la Nouvelle-Zélande ne pourra pas jouer au rugby comme elle l'a fait, comme elle a récité contre l'Argentine, et on ne verra pas, pour moi, des essais à plus de beaucoup d'essais à plus de 10 temps de jeu, parce que la défense sud-africaine, elle asphyxie l'attaque adverse, elle monte en sprint, elle envoie des voltigeurs dans le camp adverse. Voilà. Par contre, je pense qu'on va avoir du jeu, on va revoir du jeu au pied offensif. La Nouvelle-Zélande, on sait que ça fait partie de leur arme aussi. Je pense qu'ils vont utiliser, on l'a vu à maintes reprises, ils l'avaient utilisé beaucoup quand eux avaient corrigé l'Afrique du Sud à Christchurch, je crois, avec
En juillet,
des
ouais.
chandelles, ouais, des chandelles du 10 ou du chandelle du 9, y compris dans la zone offensive, c'est-à-dire des chandelles qui retombent très proches de l'en-but. Je me souviens de Will Jordan sur un des premiers ballons d'attaque qui fait un en avant sur la tête de Leroux,
Oui.
je crois. On avait vu des passes au pied, des passes laser au pied du 10 pour l'ailier, parce qu'on sait que les Sud-Africains libèrent un couloir à l'extérieur et n'ont pas peur du surnombre offensif puisqu'ils coupent les passes. On avait vu aussi ben des chandelles plein terrain pour exposer l'arrière-garde sud-africaine, puisqu'on l'a dit aussi dans ce salon tactique. Les Sud-Africains montent très fort, mais laissent leurs deux sentinelles un peu éloignées au fond du terrain, avec deux libéraux. Ils jouent avec deux libéraux au fond. Et on avait, d'ailleurs, les Bleus avaient exploité ces espaces-là. On y revient avec des jeux au pied de Dupont, des retours dans les fermés, pour limiter les prises de risque. Donc je pense qu'on va avoir des Néo-Zélandais qui vont pratiquer un rugby différent en finale.
Un des exemples de jeu au pied d'Aaron Smith dont parle Yannick. Alors là, ce n'est pas le match de juillet, c'est le match d'août. Ça, ce n'est pas couronné de succès, mais quand même, ça donne une idée de ce que les Néo-Zélandais. On est sur une touche sur les 22 mètres Springbok. Et il tape tout de suite sur le premier temps de jeu, il tape à l'entrée de quasiment devant l'en-but. On va le revoir peut-être une fois. Donc que je recale. Un peu de problème avec la réalisation dans cette émission. Mais...
Ouais, ça laisse à désirer quand même. Heureusement que c'est pas la fin, quoi.
Voilà. Ça fait quand même en avant. Donc c'est des situations quand même hyper chaudes. Et juste pour montrer quand même que les Blacks, avec leur jeu, leur capacité technique, leur jeu en cellule, ils ont quand même cette capacité à pouvoir affronter cette défense sud-africaine en essayant de la contourner. Alors là, c'est une longue action. Ils sont donc à 14, là, les Blacks. Et on va voir que via du jeu dans le dos, des blocs, via des passes des avants, des passes au contact. Là, ce qui est intéressant, c'est que regardez, là, les Blacks, ça fait un petit bout de temps maintenant qu'ils sont sur cette action, qu'ils possèdent le ballon. Et à partir du moment où l'arbitre donne un avantage, on va voir l'attitude des joueurs derrière qui va changer. C'est-à-dire que là, on les voit qui sont plutôt regroupés, on va dire, au centre du terrain. Et regardez, il y a plusieurs joueurs à partir de ce moment-là qui vont commencer à prendre la largeur. Hop, on voit qu'il y a des attitudes qui changent. Barrett, Will Jordan, Rieko Ioane, Mohunga, tous ils changent d'attitude. Et là, on va voir jeu dans le dos, passe longue, dans le dos de RNC qui était monté en pointe. Il y a RNC qui va encore faire la truite. se balader au milieu de la défense.
C'était Léa.
À nouveau, l'ailier qui vient. Là, pardon, Amélie qui vient à hauteur. Là, pareil, parfaite attitude d'un avant en plein milieu de la ligne d'attaque. Là, on va revenir à une action qu'on avait regardée la semaine dernière en préparant France-Afrique du Sud. C'est ce moment où on voit la rush défense des Sud-Africains qui vont faire, ils vont faire tomber comme des quilles tous les joueurs néo-zélandais, sauf que le ballon, là, il est parti et que les néo-zélandais continuent à avancer. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et de précision technique aux néo-zélandais pour faire cette attaque-là. Au final, ils vont commettre un petit en avant au sol qui va annuler un essai. Mais on voit qu'ils ont quand même la capacité à jouer, à trouver des solutions face à cette attaque-là, face à cette défense-là. Et il faudra voir dans quelles conditions se jouera ce match aussi, parce que s'il fait le même temps que samedi, ça sera clairement à l'avantage des box.
Pour l'instant, il n'annonce pas de pluie, Alexandre. Je viens de regarder ma météo. Pour l'instant. Bon, ça tombe.
Météo Paturo.
Merci.
C'est la meilleure météo.
Ouais, ou pas, ouais. Il est 21h01. Alors, est-ce qu'on arrête là ou est-ce qu'on se dit merci, au revoir, merci pour tout.
Ouais, tant qu'on y est, on peut montrer une dernière chose.
Et voilà, évidemment, bien sûr. C'est bonus.
On peut rappeler un autre truc qui avait très bien fait, je ne vais pas montrer une vidéo, là, mais un truc qui avait très bien fait les Blacks quand ils avaient battu les Boks en juillet, c'est les jeux. On avait commencé le premier talent tactique avec Yannick quasiment par cette expression-là, les jeux en retour. Et on va pouvoir.
En rétro.
On va pouvoir boucler la boucle avec juste un exemple. Je ne sais même pas, peut-être qu'on l'avait déjà montré, mais au pire, ça fera un doublon. Là, les Blacks viennent de prendre le centre du terrain. Ça avait appris le centre du terrain. Le ballon est dans les mains d'Aaron Smith. Aaron Smith, ce qui est intéressant, donc, c'est que là, au sol, il y a Savea et il y a Jordi Barrett. Aaron Smith va faire un temps de plus vers la droite. C'est-à-dire que le jeu vient de la gauche, donc il va faire un temps de plus vers la droite. Et on regarde au sol, là, Savea et Jordi Barrett qui très vite se relèvent et partent se replacer dans le fermé, à l'opposé. Et quand le ballon, après ce ruck-là, le ballon est renversé vers la source, vers le côté source, comme on dit, Savea et Jordi Barrett sont replacés et ils vont créer un surnombre du coup. Et Savea va pouvoir avancer, débouler le long de la ligne sur une vingtaine de mètres. C'est quelque chose que les Néo-Z font très bien. C'est quelque chose que les Français ont utilisé la semaine dernière. On sait que face à la roche défense, des Sud-Africains, c'est une arme puisque le côté fermé, on va dire, le côté d'où vient le ballon, c'est plus difficile de rusher de ce côté-là, la ligne est moins prête, on se retrouve souvent, c'est des avants qui sont dans ce côté-là. Donc c'est peut-être une autre arme à utiliser pour les Néo-Z.
C'est clair.
Merci Alexandre, c'était complet encore une fois. Bravo. Bravo.
J'en avais encore, hein, si tu veux, mais...
Non, mais tu vas continuer tranquillement dans ta chambre, comme à chaque fois, et tu vas nous laisser tranquille. Et on va remercier Yannick aussi, beaucoup, pour toute sa disponibilité, parce que moi, j'ai appris plein de choses pendant la Coupe du Monde. Je ne me rappelle pas de tout, hein, mais j'ai l'impression d'être un peu moins bête, moi.
Ok. Alors, merci à vous aussi. Vraiment sympa de travailler ces matchs, de s'enrichir et de passer du temps avec vous, parce que j'étais quand même très très bien épaulé. Et bravo Alex, Jeff, bravo Alex aussi. Je sais que Alex a énormément d'heures de sommeil à rattraper et que son ordinateur a besoin de souffler aussi. Donc voilà.
Mais moi j'ai pas une saison qui continue, c'est ça le truc. Moi je peux me reposer maintenant. À toi. Toi tu rêves. Parce que... Écoutez, beaucoup de bonheur d'ailleurs avec le bébé.
Ouais, c'est gentil. Écoutez, si je me fais virer rapidement, je sais que vous me tendrez la main pour un salon tactique.
On va attendre un peu le mois de janvier, il est un peu tôt encore.
Ouais. Ça va vite un top 14 quand même. Non, mais
je pense que nous et les gens en général auront vraiment apprécié à la fois, évidemment, mais ça, il n'y avait aucun doute, ton expertise, la qualité des explications et puis cette manière aussi très imagée parfois de raconter les choses, de les expliquer en prenant, là, ça me fait penser à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est un peu comme de pousser une voiture sur une seule jambe. Je pense que pour quelqu'un qui aime le rugby, comme pour quelqu'un qui le connaît peu, ces expressions-là aident beaucoup à mieux comprendre. Ça a été vraiment hyper précieux. Et merci pour le temps que tu as consacré aussi. Parce que autant la première semaine, c'était facile, on va dire, en quelque sorte. Parce que l'entraînement n'avait pas repris avec le bébé, mais après, ça a été plus compliqué. Et voilà, c'était très, 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 très enrichissant. Et la semaine prochaine, on aura un autre Gersois
C'est obligatoire, a
à ta
priori.
place. Voilà, c'est la mafia. De toute
Antoine
façon,
Dupont.
c'est Antoine Dupont.
Ah non, c'est pas Antoine Dupont.
C'est Antoine Dupont, ouais, c'est ça.
Ouais, je peux pas tout vous dire, mais.
On a demandé à Pierre-Henri Broncan de faire le débrief de la finale. Donc, samedi prochain, dans la demi-heure qui suivra, on essaiera de prendre l'antenne avec Pierre-Henri Broncan. Et voilà, qui prendra pour une émission la suite de Yannick.
Ok. Ce sera moins
Pierre-Henri
bien,
qui est en
Yannick,
plus.
hein, mais bon.
Non, ça sera très riche parce que Pierre-Henri qui sort de son expérience à les Wallabies, qui connaît l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande par cœur, son expertise sera plus utile que la mienne. Merci. Moi, je vous remercie à tous les deux vraiment sincèrement. Et il vous reste plus qu'à acquérir les droits du circuit international et on pourra faire progresser le salon tactique avec des joueurs en 3D, des palettes.
Soit ça,
On en
soit se
parler
faire
tout de suite.
embaucher par la chaîne qui détient les droits. Il y a deux solutions.
Bah, merci beaucoup
Ok.
et bah, bon courage Yannick aussi pour la semaine prochaine parce qu'en
Merci
plus tu as un petit match
à
facile
vous.
pour commencer, le Stade Toulousain,
Ouais.
pour recommencer la saison. C'est bien, parfait, pour monter dans le bain direct quoi.
Ouais, bah ok. De toute façon, il faut les jouer deux fois dans l'année. Hein, donc, on ne choisit pas. Le plus tôt sera le mieux. Et puis voilà. On espère réaliser un bon match là-bas, évidemment. Et puis, y aura plein d'autres matchs, puisqu'on part sur un enchaînement de 15 rencontres. On doit réintégrer nos internationaux. Donc, il y a plein de petits challenges qui nous attendent. Mais on a vu dans ce salon que les petites batailles, il fallait savoir les gagner. Donc, on se prépare.
Ce qu'on n'a pas dit à
Merci
Yannick, on a
Yannick.
oublié de préciser, c'est qu'on fait ça en tactique samedi soir, mais aussi lundi avec Pierre-Henri
Oui.
Broncan pour décrypter Toulouse
Ouais.
UBB.
Et on
Ok.
sera intraitable. Prépare-toi.
Je serai sur Twitch.
Merci les gars. Merci pour tout. Merci à tous ceux qui
Allez.
nous ont suivis.
Merci
Et
Yannick.
à la semaine prochaine.
Au
Donc,
revoir.
bye
Au revoir.
À la
Ciao,
semaine
ciao,
prochaine.
ciao.